Je vais prier. Merci Seigneur pour cette occasion où nous pouvons écouter ta parole qui est tellement précieuse. Cette révélation spéciale que tu nous as laissée est un trésor pour nous Seigneur. Et à travers ce temps de prédication, nous voulons encore ouvrir notre cœur car nous avons besoin de recevoir de toi cette précieuse parole pour encore continuer notre chemin avec toi durant cette année 2025. Seigneur, sois avec nous. Entoure-nous, Seigneur, par ta grâce et avec aussi ton esprit, que ton nom soit loué aussi à travers ce temps d'écoute et aussi d'apprentissage. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Bonne année à tous. L'année 2024 était une année mouvementée, je dirais. On a eu beaucoup de choses. Beaucoup de projets de l'Église, mais aussi individuellement, on a vécu beaucoup de choses. De temps difficiles, des épreuves, même des décès, mais aussi des encouragements. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut que remercier le Seigneur, parce que dans les moments d'épreuve, le Seigneur était toujours présent à nos côtés. Et je pense que le Seigneur sera encore présent pour cette année 2025. Oui, même si l'année précédente a été marquée par des épreuves telles que la maladie, la perte d'un emploi ou encore les défis liés aussi au vieillissement, il y a eu vraiment des... Le Seigneur était avec nous. Il nous faut en tout cas avancer avec foi, persévérance, prière, etc. Que le Seigneur en tout cas nous bénisse durant cette année 2025. Le titre de la prédication d'aujourd'hui que j'ai choisi, c'est « Courir vers le but ». Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Et nous courons pour aller où? Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. Je vais juste vous lire deux versets, verset 12 et verset 13. J'aimerais tout d'abord lire verset 12, chapitre 3, verset 12, Philippiens. Il est écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Voilà jusqu'ici notre lecture. La lettre aux Philippiens a été écrite par Paul, l'apôtre Paul. Et dans ce message, nous voyons beaucoup de contenu d'espérance, de joie, de vision spirituelle. En tout cas, il donne des messages d'espérance aux Philippiens qui reçoivent justement cette lettre circulaire. Ce qui est encore marrant, c'est que lorsqu'il écrit cette lettre, aux alentours de 61, il était emprisonné. Il était dans la détresse. Il vivait dans l'épreuve. Mais malgré sa situation, il nous écrivait en tout cas ce message d'espérance. Alors, à quel âge il a été écrit, enfin, Paul avait à peu près 61 ans lorsque cette lettre a été rédigée. C'était un âge assez avancé pour l'époque, puisque l'espérance de vie n'était pas aussi élevée à cette époque-là. Mais en tout cas, il était tourné vers l'avenir. C'était un homme qui rêvait de grandes choses pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a puissamment utilisé. Paul était vraiment un visionnaire, un homme tourné vers l'avenir. Et quand il écrivait cette lettre, ça faisait déjà environ 30 ans que Paul s'était converti à Jésus-Christ. Et il avait accompli tellement de choses, il avait implanté des églises, il avait encouragé, il avait réalisé plein de miracles. Et pour les Philippiens, l'apôtre Paul était un grand géant spirituel. Pourtant, admiré de tous, pourtant Paul reconnaît qu'il n'a pas encore atteint tout son potentiel spirituel, ni le sommet de la maturité chrétienne. Comme tout croyant, il devait continuer à progresser dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, comme le souligne 2 Pierre 3:18. Paul, en tout cas, poursuit donc la course de la vie avec la persévérance. Afin de quoi ? Afin de remporter le prix d'après ce verset. Je vous relis encore le verset 12, Philippiens 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Paul est en train de toujours courir pour saisir ce prix céleste. Et il l'obtiendra que seulement après sa mort. Mais il va encore, en attendant, progresser, croître, se sanctifier davantage pour ressembler à Christ. Et il dit encore, « Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Tout d'abord, il a été saisi par Jésus-Christ. J'aime bien ce mot, « être saisi ». Voilà donc, mais avant de parler de se saisir, il utilise en tout cas l'image de course. Vous savez, je me suis demandé pourquoi il a utilisé autant, c'est parce que ce n'est pas seulement dans Philippiens, il a aussi utilisé dans Colossiens, dans Timothée, cette course qu'il parle souvent, régulièrement. Et en fait, vous savez qu'il était resté à Éphèse pendant 3 ans. Et qu'est-ce qu'il y a à Éphèse ? En fait, il se trouvait qu'un immense amphithéâtre existait là-bas, et tout ça pour aussi organiser les Jeux Olympiques. Ça veut dire aussi qu'il a dû, il est fort probable que Paul ait assisté à cet événement. Et c'est pour ça aussi qu'il utilise souvent des épreuves athlétiques comme métaphore en comparant avec la vie chrétienne. Dans ce passage, en tout cas, Paul exprime son désir ardent d'être saisi pleinement par Jésus-Christ pour avancer, et qui permet justement d'aller de l'avant. Et en tout cas, alors... Que signifie être saisi par Jésus ? Être saisi par Jésus est une expression spirituelle qui reflète une expérience profonde de transformation et d'engagement envers le Christ. Alors, je pourrais peut-être vous donner l'exemple de Paul qui a rencontré Jésus, tout d'abord. Être saisi, c'est ça. Tout d'abord, rencontrer le Seigneur. Avant, il était l'ennemi des chrétiens et même de Dieu. Mais après la rencontre avec le Seigneur, il s'est complètement transformé. Il a donné sa vie entière pour suivre le chemin que Dieu a tracé pour lui. Il a redirigé vers le plan de Dieu. Et en tout cas, être saisi par Jésus-Christ, je pense... signifie qu'une personne a fait l'expérience de son amour et de sa grâce de manière si puissante que, voilà, on peut être saisi par le Christ. Et puis, cette expression « être saisi par le Christ », c'est aussi veut dire, enfin, ça sous-entend que Jésus a pris la direction de la vie de cette personne. C'est vrai que depuis que Paul s'était converti, avait rencontré Jésus, Dieu avait pris dans son cœur une grande place pour le diriger. Et c'est lui qui le commandait, qui le dirigeait, non pas par contrainte, il ne lui obéissait pas par contrainte, mais par amour et par l'acceptation libre de cette relation. Et tout simplement parce qu'il est devenu une nouvelle créature. Être saisi, c'est aussi reconnaître que Jésus a un but spécifique pour chacun. Paul se considérait saisi pour annoncer l'Évangile et accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais vous poser la question, et vous alors, il a reçu cette vocation d'annoncer l'Évangile et accomplir la volonté de Dieu. Dans ce sens-là, quels sont vos objectifs pour cette année 2025? Peut-être, pour certains, trouver un travail ou réussir vos examens ou obtenir un diplôme. Peut-être gagner plus d'argent. Ou bien préparer votre retraite ou bien profiter de retraite que vous avez déjà. Alors, ces aspirations ou ces objectifs de cette année 2025 ne sont pas mauvaises elles-mêmes. Cependant, elles ne doivent pas être justement votre objectif final. Ces objectifs peuvent constituer les étapes importantes dans votre parcours, mais si vous vous limitez à eux, vous pourriez trouver un sentiment d'insatisfaction ou un vide intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il manquerait un objectif supérieur, un but spirituel qui donne un sens profond à votre vie. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'être au clair avec votre objectif final, comme Paul l'a été. Être saisi, c'est aussi avoir une relation en continu avec Jésus-Christ. Je me souviens de Martine, que vous connaissez bien. Elle me disait, « Pasteur, je témoigne beaucoup aux athées. » Et vous savez comment, qu'est-ce que je dis ? Elle me disait, je leur dis toujours, « Je ne vous prêche pas, je ne te prêche pas une religion, mais je te présente mon Dieu avec qui j'ai une relation. » J'ai toujours aimé cette phrase. Elle disait toujours, « Moi, j'ai une relation avec mon Dieu. Et j'aimerais que tu le saches, toi aussi. » C'était un peu pénible, mais... elle avait vraiment un bon témoignage. Elle était... elle nous a quittés l'été dernier. Malheureusement, c'est vrai qu'elle nous manque. Enfin bref, être saisi, c'est un peu comme ça, avoir une forte relation avec le Seigneur. Est-ce que nous avons cette forte relation intime avec le Seigneur? Parce que c'est cette relation intime qui nous permet d'avancer, de faire cette course et aller de l'avant. Oui, Paul utilise souvent l'image d'une course pour illustrer la vie chrétienne. Être saisi par Jésus, c'est accepter de courir cette course, de progresser spirituellement en cherchant à atteindre la maturité en Christ et aussi à saisir les promesses de Dieu. En résumé, être saisi par Jésus-Christ, c'est répondre à son appel à accepter sa transformation et de vivre pleinement pour lui avec foi, avec amour et aussi avec persévérance, en ayant une relation intime avec lui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de connaître davantage sa parole. Il y a plusieurs manières d'être saisi. Et c'est pas en disant « Seigneur, interviens » qu'on est complètement saisi. En tout cas, saisir en continu. Il faut vraiment des moyens. Et pour comme moyen, c'est la lecture de la parole de Dieu. La prière, cette relation avec le Seigneur permet en tout cas d'être saisi pleinement par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre Église vous encourage à lire régulièrement la Bible pour que vous puissiez approfondir cette connaissance de Dieu. D'ailleurs, à l'entrée de l'Église, il y a un plan de lecture pour lire une fois en entier le Nouveau Testament et un tiers de l'Ancien Testament. En tout cas, ne vous gênez pas pour prendre cette plan de lecture, cette grille de lecture de la Bible pour approfondir la parole. Non seulement il faut lire la parole, mais aussi parfois méditer et même aussi apprendre par cœur. Je me suis dit, vous savez que cette semaine j'étais en vacances et je suis allé récupérer ma famille Et ensuite, je suis allé à Paris voir ma maman, qui est toute seule. Elle va dans une église coréenne. Dans une église coréenne, ils font un culte le 31 décembre à 11h45. Le soir. À 23h45, ils font leur culte pour terminer à quelle heure ? Une heure et demie. Alors, pendant 15 minutes, ils font la louange. Et puis, au moment pile où on commence la nouvelle année, 0h 2025, on a un culte tous ensemble. Moi, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je ne sais pas si je pourrais faire ça un jour avec une autre église. Bon, il y a beaucoup de gens qui rigolent aussi. Bref, ce n'est pas forcément une mission impossible. On peut le faire aussi. Enfin, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que durant tout ce culte, il a mis l'accent sur l'importance de lire la parole et puis d'apprendre par cœur la parole aussi. Ils avaient planifié un programme d'apprentissage des versets bibliques par cœur durant l'année. Alors, j'avais testé ma maman, si elle avait bien appris ces centaines de versets. Je vous assure, elle m'a cité les centaines de versets sans arrêter. J'ai été vraiment stupéfait. J'ai dit, waouh, maman, mais tu connais bien plus que moi par cœur les versets bibliques. C'est formidable. Elle disait, oui, c'est un programme qu'on a établi parce que ça approfondit. Même si pour apprendre, on est obligé de relire plusieurs fois. Ça veut dire qu'on est obligé de méditer. Et ensuite, c'est aussi, il y a un temps d'assimilage où on doit vraiment assimiler cette parole. Et aussi à force de répéter, ça sort naturellement. Alors, si vous êtes prêt à faire ce genre de défi, je peux faire moins avec vous. Veuillez me contacter. On va créer un groupe d'apprentissage des versets bibliques par cœur. Et on verra l'année prochaine si on apprend par cœur plein de versets. Voilà, donc un défi lancé. Je vais le faire. Ça, c'est ma résolution de l'année 2025. Donc, si vous voulez aussi me suivre, vous pouvez le faire. Ce ne sera pas des centaines, mais si on fait un verset par semaine, ce serait que 52. Ouais. Voilà, 52 versets. Voilà. Mais eux, ils font parfois plusieurs versets dans la semaine, c'est pour ça que... Vous rappelez aussi Annette Longeron. C'est moi qui a fait son enterrement, parce que c'est François qui m'avait demandé et il m'avait passé pas mal de notes pour que je puisse mieux connaître Annette. Plein de notes. En fait, dans ces notes, c'était des prédications, le résumé de toutes ces prédications qu'elle avait écrites. Dans d'autres notes, elle écrivait la Bible sur un cahier. Et dans d'autres choses, elle avait fait des petites cartes avec des versets qu'elle apprenait par cœur. Et je me suis dit, c'est formidable. C'est pour ça qu'elle était aussi, pas sainte, mais en tout cas très dévouée pour le Seigneur. Et je me dis vraiment, je vous lance un défi de vous rapprocher davantage avec la parole de Dieu pour cette année 2025. Le deuxième verset, donc Philippiens chapitre 3, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. pour Paul, il avait un objectif précis en Christ. C'est aller vers l'avant pour atteindre le trône céleste. Et Paul nous montre en tout cas l'importance d'avoir un but clair. Courir vers le Christ, qui est à la fois notre motivation, mais aussi notre récompense. Et pour cela, oui, nous devons faire des efforts. Non seulement des efforts pour lire la parole, apprendre, etc., mais aussi donner le meilleur de nous-mêmes dans cette course spirituelle. Vous savez que les athlètes, ils ne deviennent pas des athlètes comme ça. Ils doivent s'entraîner. Ils doivent faire pas mal de travail. C'est pas parce que vous êtes fort de naissance que au jour de concours vous allez tout de suite courir. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment, quand quelqu'un fait un marathon, ils doivent courir tous les jours pour s'entraîner, pour s'adapter, pour pouvoir courir toutes ces distances. Vous savez, je fais du tennis. Quand j'ai plus de tendinite, je m'entraîne une fois par semaine. C'est 1h30 par semaine, tous les mardis soirs. Voilà, donc vous savez un peu mes horaires de tennis. Mais avec 1h30 par semaine, on progresse pas. Enfin, on progresse un petit peu, mais c'est vraiment le maintien de mon niveau. Hein? Il faut faire plus, au moins jouer deux fois dans la semaine pour pouvoir progresser. Enfin, sinon trois. les professionnels, ils jouent tous les jours, hein, pour pouvoir progresser, etc. Oui, nous aussi, nous sommes tous des athlètes spirituels. Et nous avons un but à atteindre. Nous devons courir, nous devons peut-être faire des efforts, faire tous nos efforts en tout cas pour atteindre ce but. Et dans cet exercice, parfois, il faut se débarrasser de tout ce qui nous entrave. Qu'est-ce qui nous gêne? Parce que les sportifs ne peuvent pas manger n'importe quoi. Ils peuvent manger que des choses saintes. Saines, je veux dire, saines. Enfin, saintes aussi, mais saines. Ça veut dire qu'il faut parfois abandonner certaines habitudes. Il faut éliminer certaines distractions qui vous gêne à vous élever vers le Seigneur. Peut-être que vous avez des blessures à guérir que vous devez apporter devant le Seigneur. Un sportif ne peut pas courir quand il est blessé. Il a besoin de guérison intérieure aussi. Et voilà, nos faiblesses peuvent nous ralentir notre progression. Alors qu'est-ce qu'il faut jeter? Qu'est-ce qu'il faut enlever pour cette année, en 2025, pour pouvoir progresser, devenir plus fort spirituellement, pour être plus proche, pour avoir une relation avec le Seigneur beaucoup plus authentique. Donc, à vous de voir, à tout réfléchir tout seul. Dans cette parole, il est dit que, oubliant ce qui est en arrière, j'aime bien ce mot parce que il ne faut pas qu'on reste dans le passé. Il faut avancer. Paul nous invite à regarder devant, pas en arrière. Il faudrait peut-être oublier les échecs. Paul lui-même était un ancien persécuteur de l'Église. Et puis s'il était resté dans sa culpabilité, est-ce qu'il aurait fait autant de ministères, réalisé autant de ministères? Je ne pense pas. Mais il savait qu'il était pardonné pour de bon et que sa culpabilité a disparu parce qu'il avait la foi en lui. S'il s'était attardé sur ses fautes, il n'aurait jamais pu avancer dans ses missions. Le Seigneur l'avait guéri complètement et il est devenu justement un homme efficace qui avait reçu la grâce, la miséricorde, le pardon du Seigneur. Nous avons aussi besoin d'oublier les échecs. Nous avons besoin d'oublier aussi les réussites parce que Paul avait aussi dit ceci, qu'il était hébreu de naissance, donc c'était un sujet de fierté. Vous savez, dans la prière des juifs, tous les jours, ils font des prières, hein, les juifs. encore aujourd'hui. Et dans leur prière, vous savez ce qu'il y a ? Merci de m'avoir fait juif. Et surtout homme. Et donc, être hébreu de naissance, à l'époque encore, était un sujet de fierté. Pharisien irréprochable dans l'observation de la loi. Même après sa conversion, il est devenu un missionnaire influent, créant des églises à Antioche, Éphèse, Philippe, etc., aussi dans toute l'Europe. Et puis, il avait même expérimenté ce troisième ciel. Il a pu vraiment voir des choses incroyables qu'il n'a pas laissées dans sa lettre. Mais il a gardé ça pour lui. Mais pourtant, Paul considère tout cela comme de la perte, voire comme de la boue, en comparaison de la connaissance de Christ. Donc, il a oublié toutes ses réussites. Il s'est humilié, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, pour pouvoir assumer son ministère. Et puis, il a couru vers le but. Malgré tout ce qu'il a accompli, Paul reconnaît, « Je ne pense pas l'avoir saisi. » Il reste conscient qu'il n'a pas atteint la perfection. « Je cours vers le but. » Verset 14, « Il persévère pour accomplir pleinement sa mission et remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Oui, pour courir, pour remporter le prix céleste. Oui, le prix que Paul recherche n'était pas matériel, mais spirituel. Spirituel. Paul rappelle dans Éphésiens 2 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On voit dans cette parole combien il s'humilie devant le Seigneur, même pour le salut. Tout est par la grâce de Dieu, même le salut. Et puis, après avoir été sauvés, oui, nous sommes appelés à produire aussi des fruits, à travailler pour le royaume de Dieu, et aussi à courir la course pour remporter le prix. En effet, selon 1 Jean 2:28, il est dit, « Mes enfants, demeurez attachés au Christ, pour qu'au moment où il apparaîtra, nous soyons remplis d'assurance. » Au moment où il apparaîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne soyons pas tout honteux, loin de lui, au moment de sa venue. Ça veut dire qu'il faut veiller. Le Seigneur revient, il faut veiller, il faut être prêt. Il faut être un bon athlète spirituel pour qu'au moment où il vient nous rencontrer, qu'on soit prêt. Oui, ne restons pas prisonniers du passé, avançons avec un but clair, comme Paul. Oublions ce qui est en arrière et avançons avec foi, persévérance et maturité spirituelle vers le Christ, notre véritable but. J'aimerais conclure. L'année 2025 commence, enfin en tout cas je vous ai partagé cette parole pour que nous puissions nous rappeler combien il est important d'être saisi par la grâce de Dieu. Combien il est important d'être plus proche avec le Seigneur. Ce que je vous raconte ce matin, c'est quelque chose de très basique, que vous connaissez tous, mais on a besoin de réentendre. Vous n'avez pas l'impression ? Moi, en préparant ma prédication, c'est quelque chose qui est basique, on connaît tous, mais ça me parle encore. Ça me parle. Oui, j'ai besoin encore de faire des efforts pour vraiment que je sois un homme de Dieu, pour que je sois vraiment un enfant de Dieu, que Dieu apprécie, que Dieu agrée, non pas quelqu'un, un hypocrite, mais quelqu'un qui sert, qui aime notre Seigneur. Et c'est quelque chose qui est très simple, mais ça me parle, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous, parce que c'est important d'approfondir notre relation, et aussi, bien sûr, aller se rappeler notre objectif. Se rappeler notre objectif. C'est le Christ. Notre objectif, c'est de voir le Christ un jour. Et soyons en tout cas saisis par la grâce de Dieu aussi. Et dans cet exercice d'athlète, Le Seigneur aussi nous appelle vraiment à faire des exercices comme des athlètes professionnels. Nous ne sommes pas des amateurs. Les amateurs peuvent être un athlète quelque temps et ensuite se retirer. Non, nous ne sommes pas des athlètes amateurs. Nous sommes appelés à être des athlètes professionnels dans ce côté spirituel. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et qu'en 2025, que nous avons l'opportunité de vivre cette année dans un but clair, grandir dans notre relation avec Dieu. Si je jouais une fois par semaine, je ne progresserais pas. Et ça, c'est pas ce que je veux. J'aimerais progresser, mais bon, ma tendinite me bloque en ce moment. Ça fait des mois, mais ça, c'est pas grave. Ne pas progresser au tennis, c'est pas grave. Mais spirituellement, le Seigneur nous invite vraiment à grandir dans la foi, devenir plus mature. Et pour cela, parfois, il faut jeter des choses, il faut encaisser, il faut porter des choses pour avancer. Voilà, que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous accompagne durant cette année 2025. Amen. Je vous invite à la prière.